Merci d'écouter Cob FM, place au MAG Emploi et Pascal reçoit aujourd'hui Marie-Annick et Victor Bonneau de l'OFP Conseil basé à Saint-Brieuc.
Le MAG Emploi, Pascal Conen sur Cob FM.
Nous avons le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Annick Bonneau, fondatrice et dirigeante d'OFP Conseil, et Victor Bonneau, consultant et chargé de développement au sein du cabinet basé sur Saint-Brieuc. Alors déjà, bonjour à vous deux.
Merci. Bonjour Pascal.
Merci à vous.
Marie-Annick, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours avant de fonder OFP Conseil ?
Alors, avant de fonder OFP Conseil, j'ai animé pendant une dizaine d'années des conférences sur une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur sur toute la Bretagne, auprès des étudiants. Alors sur le sens qu'on donne à son parcours, sur le savoir-être, sur la confiance en soi, sur les codes, parce que c'était pour la plupart des formations où ils avaient des stages à effectuer et les obligations en entreprise ne sont pas les mêmes que dans la vie quotidienne. Et donc j'aimais bien cette à aider de les amener à prendre conscience de tout cela. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené, peut-être sur la création d'OFP, parce que je rencontrais de plus en plus d'étudiants à qui, quand je posais la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se posent la question de savoir pourquoi vous êtes là, sur 40 étudiants, il y en avait 20 qui levaient la main en disant, je ne sais pas, ça ne me plaît pas, alors pourquoi êtes-vous là ? Alors je ne savais pas quoi faire, donc j'ai suivi mon bac, ou je n'étais pas pris là où je voulais aller, alors je suis allée là où j'étais pris.
Oui, alors mais que ça c'est la question pas. Importante en plus, quelque
mais
part.
Mais c'est très important, et ils se perdaient, et perdaient leur énergie à faire quelque chose avec lesquels ils n'étaient pas en retrait. Moi, je pars du principe que c'est vraiment dommage de se perdre dans quelque chose qui ne nous correspond pas, alors qu'en étant dans la bonne direction, on peut vraiment se réaliser. Et donc, j'ai eu envie, je crois que c'était du gâchis, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour aider ces étudiants, parce que ça me plaisait beaucoup l'idée, à trouver leur voie, partant du principe, et c'est vraiment le cœur de notre métier, que chacun d'entre nous a un talent, qu'il faut trouver ce pourquoi nous sommes faits. Et quand on a ciblé cela, on met en place les outils formation qui permettent de se réaliser. Et donc, j'ai réfléchi à ce concept pendant 6-7 mois. Je voulais le personnaliser. Je savais ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas dans la démarche auprès des étudiants. J'ai trouvé des cobayes. Je n'ai pas eu de mal dans les lycées ou les établissements où j'intervenais. Et puis, quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait, j'ai créé officiellement donc, OFP Conseil en 2011.
D'accord. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. C'est en 2011 qu'OFP a été
officiellement. Voilà.
D'accord. Et vous n'étiez pas au même endroit que maintenant ? Vous étiez peut-être.
Alors, on était toujours à Saint-Brieuc, hein, parce qu'on a la chance d'être dans un ancien cinéma.
Qui est
le Royal à Saint-Brieuc.
Je témoigne.
Après, maintenant, on a un peu déménagé. On est venu au rez-de-chaussée parce qu'on avait besoin d'espace, mais c'était déjà là au départ.
D'accord, ok. Voilà. D'accord. Alors, justement, le rôle d'OFP Conseil, c'est quoi exactement ?
Le rôle, c'est d'aider les jeunes à trouver leur voie, d'abord, et ensuite à mettre en place les outils, entre guillemets, formation, qui permettent de réaliser le projet. Donc, nous avons essentiellement des lycéens, des étudiants, post-bac plus 1, plus 2, plus 3, soit qui se sont trompés et qui veulent revoir leur projet, soit qui valident une licence ou un premier parcours et veulent vraiment bien affiner la suite et donc ont besoin d'être accompagnés là-dessus. J'ai aussi tout un pôle de reconversion professionnelle et qui se développe beaucoup. Je pense que la Covid a amené beaucoup d'adultes à se remettre en question sur le sens qu'ils donnaient à leur métier. Ça se développe beaucoup. Mais le cœur même d'OFP, c'est d'abord l'orientation et aussi des ateliers, ce que nous appelons les ateliers de la réussite, pour aider les élèves à apprendre, ce que parfois l'école ne sait pas forcément faire.
Non, pas forcément, non.
Et donc, on part du principe que, moi je dis toujours aux élèves, entre le premier de la classe et l'avant-dernier, si tant est que, c'est pas du tout une question d'intelligence, c'est une question de méthode. Et donc, on a amené des élèves à apprendre, à reprendre confiance en eux aussi, parce que parfois les élèves, et c'est fort dommage, mais confondent leurs notes et leurs valeurs. Or, c'est pas parce qu'on a un 7 qu'on vaut un 7, on est d'accord. Le 7, il dit qu'on n'a pas compris ou qu'on a fait un hors-sujet ou qu'on n'a pas suffisamment approfondi son sujet. Donc, on travaille vraiment là-dessus, on a développé des outils et on a un vrai succès avec ça et on démontre qu'avec une bonne méthode, j'ai envie de dire, tous les élèves pourraient réussir.
C'est bien. Parlez-nous un peu de votre équipe. Elle est constituée de quelle façon ?
Alors, nous sommes 5. Nous sommes 4, 5, 6, je ne sais plus. 6, pardon. avec Victor. Et ce sont des consultantes que j'ai formées, puisque j'ai déposé le protocole OFP, qui est vraiment particulier à notre façon de faire. On va vraiment du début, découverte du projet, cibler les formations, accompagner sur la sélection des écoles, y compris qui sont en phase avec le dossier, optimiser le dossier pour avoir la chance d'être pris là où on a envie d'aller, les dossiers d'inscription, de sélection, les lettres, les CV, les entretiens. On prépare aussi énormément nos élèves aux séances de coaching, d'entretien dans les écoles. Et j'ai la fierté de dire que depuis 5 ans, on est à 100% de réussite et on a des étudiants qui ont présenté Sciences Po, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, enfin des écoles qui peuvent être sélectives. Mais on les prépare bien. Alors après, l'intérêt aussi, c'est qu'en amont, comme nous avons travaillé avec eux sur leur projet, il est plus facile aussi de convaincre un jury pourquoi j'ai besoin de votre école, parce qu'ils savent exactement pourquoi ils sont là.
Où ils vont, quoi. Ouais,
il y a des éléments qui sont aussi plus convaincants. Et donc j'ai des consultantes qui sont formées au protocole OFP, ça prend un petit peu de temps, on a tout un process de formation particulier, et quand elles sont prêtes, eh bien, elles passent à l'étape du consulting. Alors elles commencent souvent par les troisièmes, les secondes, parce qu'il y a un petit peu moins d'enjeux. L'étape d'après, c'est les premières, les terminales, et puis jusqu'à maintenant, c'est encore moi qui garde les étudiants post-bac, mais les choses évoluent. En fait, elles évoluent au fil du temps.
D'accord, ok. Alors justement, c'est vraiment une démarche personnalisée, quoi.
Ah, totalement.
D'accord.
Ah, totalement.
C'est vraiment
parce
ça votre force, en fin de compte.
C'est notre force, c'est notre point fort, et c'est aussi de faire prendre conscience à chacun qu'on n'est pas un numéro, qu'on est un, et qui peut faire quelque chose qui lui correspond.
D'accord. Et alors justement, les différentes étapes de votre suivi, ça se passe comment quand vous rencontrez l'étudiant ?
Alors le premier rendez-vous, déjà on explique. Alors il faut savoir que chez nous, alors nous avons des élèves qui viennent, on a fait le point, dont on a 38 lycées sur toute la Bretagne. Donc on rayonne vraiment très large. On a des étudiants, des élèves jusqu'à Nantes. Et sinon, toutes les villes bretonnes, on a à peu près tous les lycées bretons.
Oui.
On a 3 clients sur Paris que Victor a le privilège de suivre. et donc, ce sont les parents qui sont prescripteurs. Il nous est arrivé, on a un lycée sur Pontivy, notamment, on doit avoir une quarantaine d'élèves, d'avoir 2 élèves qui sont des très bons copains dans la vie quotidienne et qui se trouvent dans la salle d'attente chez nous, qui ne savaient pas que l'un venait chez nous par rapport à l'autre. Les élèves ne parlent pas de cela entre eux. Ce sont les parents qui... peut-être sont inquiets ou se posent des questions par rapport à la réforme du bac avec l'obligation de choisir des spécialités qui engagent déjà sur l'avenir. Et c'est vrai que c'est important de déjà bien cibler les spécialités. Ou des élèves qui n'ont pas des bons résultats et les parents savent que si on n'a pas un bon dossier, on n'ira pas forcément là où on veut, donc sont plutôt inquiets. Parfois d'ailleurs, ça crée des tensions au sein des familles, parce que l'enfant ne travaille pas comme les parents voudraient qu'il travaille. Et nous, on amène aussi un soutien là-dessus. Donc bref, les parents viennent, on explique notre démarche, comment ça fonctionne, à quoi ils s'engagent. Et le premier rendez-vous dure à peu près 2 heures, et c'est ce qu'on appelle la découverte, où on fait le point sur tous les métiers qui pourraient correspondre, en tous les cas, qui intéressent l'enfant,
dans un
premier temps. Il y a des points métiers, il y a après les parcours de formation... cibler les formations. Nous faisons toujours attention en tenant compte de la personnalité de l'élève aussi. Il y a des élèves qui sont faits pour aller en prépa, et puis il y en a même brillants qui ça ne correspond pas. Il y a des élèves qui n'ont pas forcément l'autonomie pour aller à l'université, on évite aussi de les laisser faire cela. On tient compte vis-à-vis des parents, et c'est très important, est-ce qu'on pourra cibler des écoles privées, des écoles publiques pour des questions de budget. On fait vraiment du sur-mesure. Le seul critère qui n'est pas négociable chez nous, c'est la qualité, la reconnaissance des formations que l'on propose aux élèves pour la réussite de leur projet.
D'accord,
ça, c'est
okay.
hyper important. Et on construit tout le process comme cela, personnalisé en fonction de tous ces critères.
D'accord, ok. Est-ce que vous avez des contacts avec les professeurs de ces élèves pour avoir une démarche cohérente entre parenthèses?
Nous avons des professeurs déjà qui nous confient leurs enfants.
D'accord, oui, ça
quelques
c'est
professeurs. On a des contacts avec des professeurs parce qu'il y a dans tous les lycées des professeurs qui ont cette envie de donner du sens aussi, d'aller au-delà des contrôles et des connaissances, d'accompagner les élèves. Donc il nous arrive effectivement d'avoir des professeurs qui nous appellent parce qu'ils ont entendu parler de nous par leurs élèves, et on échange, on a la même facilité, la même envie de faire les choses.
Oui, d'aller dans le même sens.
Après, il y a d'autres choses qui ne vont pas dans le lycée, mais on ne va peut-être pas aller sur ce
sujet-là. C'est un autre sujet,
parce que ce n'est pas simple forcément pour eux. On est bien d'accord.
Alors Victor, la génération Z a-t-elle encore besoin d'humanité dans le processus de l'apprentissage, ou est-elle condamnée à fonctionner à l'aide de l'intelligence artificielle et autres procédés numériques ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, l'usage des outils digitaux est devenu fondamental aujourd'hui. Pour autant, on a quand même besoin de garder cette humanité dans l'accompagnement qu'on peut avoir quand on est jeune, pour trouver sa voie. On a besoin d'un soutien, d'une pédagogie qui est humaine. Et c'est ce qu'on porte chez OFP Conseil, c'est justement qu'on met les algorithmes de côté, parce qu'on considère que l'avenir ne se joue pas devant un ordinateur. Et qu'on a besoin d'avoir ce rapport humain, qu'on a besoin de cette prise de recul qui est humaine. On a besoin de ce soutien, de cette pédagogie apportée par des consultants. Ouais.
C'est rassurant d'entendre ce genre de choses pour quelqu'un de mon âge. C'est important. Qu'est-ce que recherchent justement les jeunes générations en termes d'apprentissage ? Est-ce que notre système n'est pas trop conventionnel et n'est pas toujours adapté à leurs attentes ?
Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs formations quand on parle du post-bac, donc, que des formations comme les BTS ou les BUT sont en train de monter en flèche parce qu'il y a des jeunes que moi j'ai rencontrés ou qu'on a accompagnés qui ont besoin de ça, qui ont besoin de beaucoup plus de concret dans l'apprentissage, qui ont besoin d'apprendre en faisant aussi. Et donc, on voit ces formations qui deviennent de plus en plus populaires auprès de tous les jeunes, et donc c'est nécessaire. Parce que trop de théorie fait perdre le sens qu'on donne à ses études, à son apprentissage et donc à son projet.
Ouais,
donc... Et en parallèle de ça, on le voit aussi par l'apprentissage et l'alternance. Dans mon cadre, par exemple, j'ai un parcours en affaires publiques, mais j'ai repris des études en intégrant OFP Conseil, des études en alternance, et donc j'ai pris conscience de l'importance de l'apprentissage. Et c'est quelque chose qui fonctionne, un système qui fonctionne de plus en plus, et les étudiants sont de plus en plus demandeurs de ce genre de système.
Et les chefs d'entreprise aussi, je pense.
Oui, et les chefs d'entreprise aussi.
Ouais. Il y a une vraie adéquation entre les deux qui est en train de se mettre en place là, et qui fonctionne vraiment bien. C'est vrai que c'est important, ça. Alors, nous savons maintenant que la jeune génération ne fera pas sa carrière dans le même métier ou la même entreprise toute sa vie. Est-ce que c'est ça la difficulté pour eux, justement, de se projeter dans l'avenir, de savoir un peu comment ils vont fonctionner plus tard ?
Non, je pense pas. Auprès des jeunes qu'on accompagne, qui sont au lycée, par exemple, leur objectif premier, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire après le bac, comment je vais réussir et à m'épanouir. Et je pense que c'est tout l'enjeu de l'objectif professionnel. Avant de dessiner le chemin de formation, c'est de décider de l'objectif professionnel, de savoir où on va. Mais cet objectif est muable. Il reste pas le même tout au long de sa vie. Et certainement, ma génération, j'ai 26 ans. On est des jeunes on va changer de métier tous les 4, 5 ans, 6 ans. Mais on a toujours cette nécessité de l'objectif pour avancer et savoir vers où on va et vers où on veut aller.
D'accord, ok. Quelles sont les interrogations et les questions que vous entendez le plus souvent quand vous rencontrez justement des jeunes en situation d'échec ?
Justement, ces questions-là, c'est trouver ma place, réussir à faire ce que j'ai envie de faire, trouver du sens dans ce que j'apprends aujourd'hui pour demain. Et réussir à ne pas avancer à l'aveugle. Tu veux ajouter quelque chose ?
C'était juste, moi, de dire que échec, c'est un mot qui est interdit chez nous.
D'accord, ok. C'est vrai. Non, mais c'est important.
Parce que échec, ça dit en sous-entendu, je suis nul, je ne vois rien, et ça, on n'aime pas. Échec, ça veut dire, moi je dis, on ne réussit pas, forcément, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir ailleurs. Donc, vous voyez cette étiquette que l'on peut coller. Ouais. Et le système scolaire, il fait ça très bien aussi, parfois, quoi.
Ouais.
Parfois, je dis bien.
Parfois. Vous pouvez justement, on en a parlé un petit peu avant, mais vous pouvez évaluer votre taux de réussite ?
Alors, on n'a pas de statistiques précises.
D'accord.
C'est pas ça qui nous importe. En revanche, comme le disait ma mère, donc, la fondatrice, parce que c'est une affaire de famille avant tout, on ne lâche rien. Tant que le jeune qu'on accompagne n'a pas trouvé sa voie, ce qu'il veut faire, on ne le lâche pas.
Ouais.
Et on va trouver la solution qui leur correspond. La solution la plus pertinente pour qu'ils puissent réussir, trouver du sens et s'épanouir.
C'est top. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes ou à des parents pour les convaincre de vous contacter ?
Alors, il y a les deux publics. Tu veux peut-être dire...
Je ne sais pas, les convaincre de nous contacter. Moi, encore une fois, c'est que le bouche-à-oreille qui fonctionne. J'ai quasiment pas fait de communication depuis temps. Et c'est la meilleure des communications. Mais j'ai vu des parents malheureux de voir leur enfant malheureux. Et on l'est quand on a un enfant qui ne va pas. Et donc, ça peut être aussi... Et puis, c'est pas toujours facile en tant que parent. On pense connaître ses enfants, on projette consciemment ou inconsciemment sur eux quelque chose qui n'est pas forcément ce qui leur correspond. Les enfants, parfois, sont aussi piégés par la peur consciente ou inconsciente, de décevoir papa, maman si je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Et donc, les parents sont pas forcément, on n'a pas forcément cette objectivité. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui est totalement neutre, moi je dis toujours pâtissier ou astronome, ça m'est égal, les deux sont très beaux. C'est juste de bien réussir ce qui va vous correspondre. On a cette objectivité qui permet justement aux parents d'être aussi beaucoup plus sereins. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous...
Et auprès des jeunes aussi. C'est, en fait, je pense que la force de FP Conseil, c'est d'être cette tierce voix.
Oui.
Face aux doutes qu'ont les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Et on va réussir à réussir tant les parents sur les capacités, sur la possibilité pour leur enfant de réussir. Et aussi les enfants, on va pouvoir les rassurer par rapport à leurs doutes sur leur avenir.
Ouais. Le nombre de fois où j'ai, apportant des conseils, accompagnant l'enfant, les parents me disent mais c'est exactement ce qu'on lui répète depuis des mois. Bah oui, mais vous avez le plus beau rôle et le plus difficile, vous êtes parent.
C'est bien d'avoir, d'être extérieur à ce genre de choses.
On arrive à faire passer des messages.
C'est une demande aussi. Je pense que, outre l'activité principale qui est la nôtre, qui est l'orientation ou l'organisation, il y a aussi cette volonté, tant du côté des parents que du côté des enfants, de dire. Cette personne qui nous aidera à prendre du recul.
Du recul, c'est hyper important. C'est ça. Ouais, c'est cool ça. Vous avez d'autres projets au sein de FP Conseil dans les années à venir ? Vous avez des choses en cours ?
Plein.
L'objectif de FP Conseil, c'est la construction du projet professionnel. Donc l'orientation est fondamentale, mais pas unique dans cette construction. Il y a l'organisation, comme le disait ma mère, mais il y a un troisième axe qu'on souhaite développer, qu'on a commencé à développer en format bêta, dirais-je, c'est l'expression. L'expression orale et écrite. Parce qu'on a besoin d'avoir confiance en son expression, on a besoin de réussir à développer cette passerelle pensée-parole pour pouvoir réellement pouvoir s'épanouir. Donc on est en train de développer ça aujourd'hui. Et puis, bien sûr, l'orientation étant un besoin de plus en plus fondamental partout, il y a aussi la nécessité de développer de nouvelles agences.
Okay, donc plein de belles choses.
Nous avons d'ailleurs une agence à Quimper.
Oui, c'est vrai.
Depuis
un an et demi. Après le Covid.
Ouais. Ça se développe. Merci déjà à vous tous les deux.
Merci.
Alors, nous avons aussi aujourd'hui avec nous Madame Philippe Onolouen, directrice du CIAS SBAA. Alors, déjà, c'est quoi le CIAS ?
Alors, CIAS, ça signifie Centre Intercommunal d'Action Sociale.
D'accord.
Et donc, nous sommes une structure publique rattachée à l'agglomération de Saint-Brieuc. C'est pour ça que vous avez SBAA.
D'accord, ok. C'est combien de collaborateurs au sein du CIAS ?
Alors, nous sommes près de 520. Près de 520 salariés au sein de notre structure, avec en majorité des intervenants à domicile.
D'accord.
Aide à domicile, aide-soignants, infirmiers, livreurs de repas, puisque nous sommes une structure de maintien à domicile de personnes âgées ou personnes en situation de fragilité.
D'accord. Et vous intervenez sur quel secteur géographique ?
Alors, comme nous sommes rattachés à l'agglomération de Saint-Brieuc, nous intervenons sur les 32 communes du territoire.
D'accord. Alors, à part les compétences, qu'est-ce que vous attendez des personnes qui interviennent au sein de votre structure ?
Alors, l'aspect technique, effectivement, c'est important, mais nous sommes sur des métiers relationnels. Donc, nous intervenons auprès de personnes fragilisées qui ont besoin de soutien. Donc, ce que nous recherchons prioritairement, ce sont des qualités humaines. Clairement. D'accord. On est sur on a besoin de professionnels qui de l'empathie, qui ont l'envie d'aider, qui ont une capacité d'écoute, d'échange importante. On est vraiment dans cette recherche-là. Et il faut également savoir s'organiser, ça c'est indispensable, s'adapter aux différentes situations. Mais la motivation, l'envie, ça reste véritablement la priorité.
Il faut avoir la fibre quand même quelque part, quoi.
Oui, il faut se sentir concerné.
Voilà.
On a l'impression que ces métiers-là ne sont réservés à un certain type de personnes. C'est pas vrai. On aide les personnes et on est accompagné aussi dans ces prises de poste.
Est-ce qu'on peut rentrer sans formation précise dans votre dispositif ? Ou alors, faut avoir déjà un bagage, certains bagages. Comment ça se passe ?
Alors, la réponse à votre question va être différente en fonction des services.
D'accord.
puisqu'on a un service de soins dans lequel nous avons des aides-soignants et des infirmiers. Donc là, le diplôme est absolument indispensable pour pouvoir exercer. En revanche, pour les aides à domicile ou les livreurs de repas, la formation n'est pas obligatoire. Alors, c'est effectivement un plus, bien sûr. Il y a de très bonnes formations dans le secteur et c'est intéressant de pouvoir en bénéficier. Mais ce n'est pas indispensable.
D'accord.
Donc les personnes qui arrivent chez nous sans formation, nous les accompagnons dans leur prise de poste. On a des formations en interne, nous mettons en place du tutorat, des binômes en lien avec nos collègues permanents.
Il y a toute une intégration qui est faite à la base et d'accord, qui est suivie, quoi. D'accord,
oui.
Okay. Alors je vous êtes là aujourd'hui justement parce que je crois que vous avez des difficultés de recrutement, comme pas mal de monde actuellement. Vous recherchez sur quel poste exactement?
Alors oui, effectivement, dans notre secteur d'activité, on ne s'arrête pas l'été. Les personnes que l'on accompagne, on les accompagne toute l'année. Donc ouais. nous recherchons en ce moment une dizaine d'aides-soignants et on aurait besoin d'une trentaine d'aides à domicile pour que le service fonctionne correctement cet été et qu'on puisse accompagner nos bénéficiaires correctement tout l'été.
D'accord. Alors, comment peut-on vous contacter pour avoir davantage de renseignements?
Alors, nous avons fait une opération dans plusieurs supermarchés de l'agglomération ces derniers jours. Il en reste une vendredi, puisque mes collègues seront au Super U de Quintin vendredi après-midi. Et donc là, n'hésitez pas à venir les voir et à prendre des renseignements. Il n'y a pas suffisamment de jeunes qui se sentent concernés par ce type de job d'été, alors que nous, on prévoit effectivement l'accompagnement et une ouverture vers l'ensemble de ces jeunes qui sont intéressés. Donc je vous disais, à Super U à Quintin, et sinon, pas hésiter à contacter le service.
D'accord.
Donc là, téléphone, mail, le mail recrutement.cis@sba.fr.
D'accord.
Si vous aurez une réponse.
Tous les renseignements.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, merci à vous trois d'avoir participé à notre émission
merci
aujourd'hui.
Merci.
Bonne journée, puis à bientôt.
Bonne journée. Au revoir Pascal.
Au revoir.
Le Mag Emploi, Pascal Conen, sur Corbe FM.